Je crois que c'est pas mal, hein. Tu veux prendre le micro, c'est ça ?
Si je parle fort comme ça, ça te nique les oreilles ou
Non, ça va.
Je n'imiterai pas l'abbé Pierre, du coup, parce que
non, voilà, c'est...
ça ne se fait plus.
C'est has-been.
Ça ne se fait plus.
Non, c'est
voilà,
fini.
C'est... Y a eu,
C'est fini.
Le joli mois de mouet numéro 55.
Ok, on est bon.
Chaque génération est un nouveau peuple.
La fin de vie, c'est pas très cool. Quand ça se passe dans le capitalisme, c'est bien meilleur de mourir quand c'est dans l'anarchie. Et euthanasier, oui, 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 mais euthanasier, Ciotti.
YouTubercule, vous n'y échapperez pas.
C'est un jiggle magnifique.
Tu veux crocher de la société ?
Tu demandes aux gens qui sont dans la vie active, dans la vraie vie, de sponsoriser tes vacances. Et ça, c'est pas juste.
Mmh. Tu sais que les gens comme toi sont le cancer de la société. Hein.
Enfin, là, t'exagères quand même.
Je suis dur, mais c'est vrai. Et comment ça se passe pour les gens comme vous quand il y a du soleil ? Dire, vous êtes content qu'il y en ait ou ça vous fait chier que les pauvres en profitent aussi ?
Tu l'as décroché, vendeur du mois sans déconner. Décoré, ils ont plus des amis, ils ont des collègues, des connaissances, de connaissances. Tu vois le truc, ils m'en diront pas plus, vendraient leur âme pour une belle voiture. Les vieux de mon âge pensent que le bonheur est dans un caddie à Darty, que l'art est dans les galeries à Paris. Ils tapent sous les ordres d'un gros tyran, dans leur discours rien de motivant. Ils parlent de meufs, de mode, pour eux j'ai le mode de vie d'un mort vivant. À part la merde qu'on leur sert fini, ils écoutent plus de son. Pour eux je suis un extraterrestre, je regarde même pas la coupe du monde. Ils demandent toujours qu'est-ce que tu fais dans la vie. Après 3 ans en entreprise ils prennent l'accent, c'est leur vie. Tu peux rester jeune, même marié, 2 enfants. Il vient de souffler 25 bougies, t'as l'impression que le mec a 200 ans. C'est pas bon non plus quand je viens pisser dans tes pots de fleurs. Turbulent, irresponsable, je suis dans le coma, dans mon fauteuil. Les vieux de mon âge me font tous la morale. Avec une fiole dans la noire, je regarde nager dans leur bocal. Quand je parle de mon avenir, pour eux je raconte un tas d'histoires. J'exaucerai mes vœux, allez vous faire foutre, moi j'y crois. Les vieux de mon âge, ils pensent m'apprendre la vie. Ils se croient tous à l'abri, on verra dans l'avenir. Les vieux de mon âge, qu'ils aient 20 piges ou 30 piges. Ils ont vieilli vite, bien c'est moi qui refuse de grandir.
Bah bonsoir. Bonsoir public en folie, ouais. Vous êtes 3000 ce soir. Merci d'être venu pour la rencontre. Ce micro n'amplifie pas, pour ceux qui ne connaissent pas les CAC. C'est un micro qui sert juste à capter l'émission de radio de YouTubercule, notre partenaire de toujours, qu'on aime. Merci YouTubercule.
Au prix qu'on est payé, c'est la moindre des choses.
Bah, vous êtes payé 2 fois plus que moi, 2 fois 0. Voilà. Et donc le numéro qui va nous rassembler aujourd'hui ce soir, donc là en l'occurrence ça parle des rapports intergénérationnels, avec une dont on m'a dit de façon extrêmement mesquine que ça ressemblait à un truc d'assurance obsèque, mais je trouve pas du tout.
C'est vrai que la une est pas top.
Bah t'aimes pas les vieux, c'est ça ? Bah on va en parler ce soir. On va parler de l'agisme, de la gérontophobie et de tous ces sentiments abjects. Donc il y a un super édito qu'on pourrait lire qui a été écrit par Louison. Louison, 16 ans, qui nous parle voilà, de son point de vue des rapports intergénérationnels. Un entretien avec Maya Mazorette, qui est assez peu connue pour ce genre de thématique, mais qui a écrit dans sa jeunesse un roman de science-fiction où les jeunes décident de partir en guérilla meurtrière contre tous les gens qui ont plus de 25 ans et qui les tuent. C'est assez jouissif à lire, donc si jamais je vous le conseille, ça s'appelle Le pire est à venir. Et donc voilà, c'est une guérilla des jeunes contre les vieux. Ensuite, du coup, une enquête reportage sur un foyer intergénérationnel qui est à la Brigue. Un entretien avec Francis Dupuy-Déry, qui est un universitaire québécois, qui est spécialisé de pas mal de choses, notamment l'anarchisme, le masculinisme et le black bloc, et qui là du coup parle de la façon dont les nouvelles générations ont un rapport différent au tout ce qui est lié au genre, à la sexualité, etc. Donc voilà, c'est de l'intergénérationnel, mais lié à l'évolution des mentalités par rapport à certains sujets. Une anarchive, donc c'est les textes d'archives, comme le nom l'indique, qui sont liés à des vieux textes anarchistes qu'on exhume, et qui parle de la place de l'enfant dans la société nouvelle, donc la façon dont l'anarchisme dont nous réclamons considère la place de l'enfant dans la société. Et du coup, ensuite, un long reportage sur l'euthanasie, la question que ça pose en termes de fin de vie. Pas mal d'associations alertent sur le fait que l'euthanasie soit lancée par des turbo-réactionnaires ultra-libéraux, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Et en attendant, si on peut trouver une volontaire pour lire l'édito, ce serait avec un grand plaisir.
L'édito de ce mois, vient de Louison. Je ne sais pas comment Louison, je ne sais pas comment elle voudrait qu'on l'appelle, mais c'est Louison, avec une photographie de Matchko Dragan. C'est fou de se dire que ceux que l'on caractérise aujourd'hui de jeunes et de vieux ne le resteront pas et ne l'ont pas toujours été. Il y a 20 ans, les millennials devaient penser que le monde leur appartenait. Ils représentaient la jeunesse et tout ce qu'elle implique. Certains disaient même qu'ils ne dépasseraient sûrement pas les 30 ans, et il était alors préférable, selon eux, de prendre la vie par les deux bouts. Aujourd'hui, les engrenages continuent de tourner, et le cercle se referme peu à peu. C'est ainsi que le monde fonctionne. Chaque génération attend son moment. Celui où profiter de la vie est écrit en majuscules. Et puis, une fois cette période achevée, on s'efface peu à peu. On se construit une vie pour combler le silence. Ce bruit blanc qui arrivera un jour, celui que toute génération redoute sans exception. Car malgré les différences, les fractures qui nous séparent, nous sommes concernés par grand nombre de choses. En effet, avant d'être un enfant, un quadragénaire ou un retraité, nous sommes des humains. Un point commun non négligeable. Alors oui, dans ce monde où désormais tout va trop vite, où les identités se confondent au milieu des likes, des clics, des hashtags, ce monde où trouver une place devient de plus en plus éprouvant, où les âmes vides d'inconnus ressassent sans cesse comment les autres doivent mener leur vie, où ton existence même doit constamment dépendre de l'approbation des autres, effectivement, peut-être avons-nous plus de mal à nous mélanger, nous, les différentes générations. Il y a ceux qui plongent tête la première dans ce tourbillon étourdissant, ceux qui se battent pour sauver un possible futur désastreux, et quelques-uns, au milieu, qui essayent de survivre entre les « c'était mieux avant » et les « qu'est-ce qui va se passer plus tard ?» Au plus on avance, au plus on construit, mais il ne faut pas oublier que ce qui a déjà été construit peut toujours s'effriter sous l'érosion et les intempéries. Au bout d'un moment, l'effet domino nous rattrape et le retour en arrière n'est plus possible. Alors, à défaut de construire plus vite pour semer la tempête, mieux vaut s'arrêter pour réfléchir. Réfléchir aux conséquences de nos actes, mais aussi à ce qui nous rassemble. Les différences, les fossés, les ravins. Nous avons les moyens de bâtir les ponts pour les franchir. Même au milieu des guerres sans fin que mène l'humanité depuis la nuit des temps et de la crainte que l'histoire ne se répète. Et tandis que le monde bourdonne, papillonne, vrombit tout autour, s'active sans se soucier de notre présence, nous seuls avons le pouvoir de fermer les yeux pour se retrouver face à nous-mêmes et de réfléchir à cette peur que nous avons du bruit blanc.
Bravo!
Est-ce que ça évoque quelque chose à quelqu'un? Voilà, le but, c'est un peu de qu'on discute tous ensemble. Qui veut se lancer?
Donc, je pense que du coup, techniquement, elle doit entrer dans la catégorie Gen Z ou Alpha, je ne sais plus. Donc, moi, je suis né en 92. J'ai l'impression d'être un petit peu dans cette dernière catégorie de comprendre pourquoi ça fonctionnait. La communication politique, par exemple, le fait qu'il n'y avait pas de notion de post-vérité avant, même s'il y avait des mensonges éhontés. Donc ça veut dire que c'était mieux avant, mais c'était que au moins j'arrivais au moins à comprendre les codes, et si quelqu'un en ressortait, on arrivait facilement à l'identifier. Mais je sais pas si vous avez d'autres clés à part lire Mouais. Ouais, bon voilà, j'ai ouvert le bal.
Bah ouais, moi je comprends. Bah je suis même génération que toi, je suis né en 90, et moi c'est vrai que pareil. Enfin, tu veux dire, quand j'étais jeune, oui, je comprenais guerre au Kosovo, c'était horrible, mais bon, c'était compréhensible d'un point de vue géopolitique ou quelque chose. Le confinement, enfin, on n'en parle plus, mais c'était comme un truc de dingue, c'est ce qui s'est passé comme à ce moment-là. Et après ça, il y a eu la prise du Capitole, il y avait un mec avec une tête, avec un truc de bison sur la gueule, qui était en mode avec un président psychopathe à côté, t'as genre, what, mais qu'est-ce qui se passe, c'est... Et là, c'est même d'un point de vue géopolitique, c'est même plus compréhensible, c'est juste n'importe quoi, c'est what the fuck, et tu comprends rien, et ouais, tu te sens perdu, quoi, notamment comme c'est mon cas où tu passes ta vie à scroller sur Twitter, etc., t'es en mode genre, bon, je ne comprends plus. Mais par contre, moi, ce qui m'aide dans mon métier de journaliste notamment, et aussi juste dans ma tête, quoi, c'est de voir que il y a des jeunes, notamment des youtubeurs, des youtubeuses, des personnes actives sur les réseaux sociaux qui décryptent tout ça et qui en fait, bah, pour nous, c'est un peu plus lunaire parce qu'on n'a pas grandi là-dedans, mais elles, eux, bah, en fait, c'est là-dedans qu'ils ont grandi. Et en fait, du coup, ils ont ces codes, ils ont ces machins, ils arrivent du coup à faire un humour là-dessus, à faire du décryptage. Et moi, j'avoue que ça me fait beaucoup de bien de voir ces vidéos, ces analyses, ces articles, ces podcasts qui sont là-dessus, faits par des gens, des personnes qui sont d'une génération qui est arrivée après, et qui du coup, pour eux, en fait, c'est pas surprenant. Et en fait, oui, bah, c'est le principe des générations, c'est qu'en fait, t'es lourdé par rapport au truc d'avant, mais c'est ceux qui arrivent derrière, ils sont moins lourdés, donc il faut écouter ceux qui arrivent derrière, quoi.
Comment tu fais pour garder un peu d'espoir ou pour prendre un peu de recul ou quoi sur la construction de l'avenir? Moi, du coup, pendant un moment, j'ai fait partie de la mouvance Youth for Climate, qui était née de Greta Thunberg, qui n'était pas trop, trop comprise aussi, mais c'était un gros mouvement de révolte des jeunes, mais alors des très jeunes, parce qu'en France, à Angers, nous, on était... je pense que 70% étaient mineurs dans le mouvement. Donc c'était vraiment un mouvement de très jeunes qui regardaient leurs vieux en disant « Mais c'est quoi ce monde de merde, en fait, que vous nous construisez ?» Et je pense que ce mouvement-là, il m'a apporté beaucoup d'espoir. En fait, on se retrouvait en tant que jeunes, en n'ayant pas encore été désabusés par toute la société, par toute la politique, par tout ça, avec plein d'idéaux, à se dire « Mais en fait, on pourrait faire ça, on pourrait faire ci. » Et à mettre toute l'énergie que des lycéens, des collégiens même, peuvent mettre dans la création de nouveaux mondes. je trouvais cet espace, du coup, qui était en non-mixité générationnelle, si je peux dire, en fait, il permettait ça. Et ça a fait rentrer énormément de très jeunes qui n'étaient pas du tout dans les milieux militants. Et pas en les faisant rentrer par le syndicat ou des formes qui sont là depuis longtemps, mais directement dans un truc autogestionnaire, ouvert sur tous les possibles. Mais c'était des espaces de possibles. Et je trouve qu'il faut vachement prêter attention aux espaces de jeunes.
Pour ma part, ce que je trouve intéressant, vu que celle qui écrit le texte a 16 ans et que les millénials sont nés dans les années 80-90, elle dit « devait penser que le monde leur appartenait, qu'il représentait la jeunesse et tout ce qu'elle implique ». Franchement, c'était la génération des parents. C'était les 30 Glorieuses. Il y a une sorte de forme de fantasme. Et moi, je me souviens de ma mère qui me dit « Quoi, t'as fait 40 candidatures spontanées pour un taf et t'as eu aucune réponse. Genre, t'es une grosse merde, ça devrait être trop simple. » Et t'es « Meuf, t'avais pas fini tes études qu'on te proposait déjà 3 tafs. » C'est assez impressionnant la vision et le décalage que moi, j'ai pu avoir en tant que millénial. Et qu'elle, à 16 ans, elle voit deux. Genre, le monde vous est offert. Il y en a d'autres dans la salle. Quelle est votre impression ?
Pour te répondre un peu directement à ta question, qu'est-ce qui nous permet de s'échapper un peu ? La lutte, camarade, beaucoup. Ça, c'est une manière de demeurer optimiste. Et puis, il y a des études aussi qui sortent. J'étais à une conférence lundi là, de Vincent Tibéri, qui est un chercheur politiste, qui montre... En fait, que les générations deviennent de plus en plus, alors que ce soit les boomers, que ce soit la jeunesse, en fait, il prend plusieurs cohortes de générations des années 40 jusqu'à aujourd'hui, et il montre qu'en fait, il y a une tolérance accrue, assez visible et forte, sur l'immigration, sur le racisme, sur les questions de genre, etc., sur la question sociale. Et ça se voit pas forcément dans les urnes, parce qu'il fait une distinction, en fait, entre la représentation électorale et la citoyenneté. Et effectivement, il montre qu'il y a beaucoup de gens qui ne votent plus, mais qui, pour autant, ont ces opinions-là, qui sont de plus en plus favorables à notre camp progressiste, en fait. Donc ça donne un peu d'espoir de se dire que les générations qui arrivent sont révoltées, sont acquises à notre cause, militent de manière différente, ont quitté un peu les formes traditionnelles de politique, que ce soit aller dans des partis, se syndiquer ou voter, mais vont être plutôt dans des formes de collectifs, de rassemblements citoyens, de mouvements citoyens spontanés, par exemple les jeunesses pour le climat, mais il y a eu aussi les Nuits debout, Black Lives Matter, les Gilets jaunes, tout ça. Donc en fait, quand on regarde un peu le panorama sur les dernières années, moi j'avoue que j'ai plutôt tendance à être assez optimiste. De toute façon... Bon, il nous reste que ça, quoi. Optimisme avec la larme à l'œil, mais en tout cas, voilà, il y a quand même des études qui montrent, stats à l'appui, que il y a de quoi l'être quand même avec ce qui arrive derrière, et voilà, vive les jeunes.
Pour revenir à ce que tu me disais sur les jeunes qui fonctionnent différemment, c'est-à-dire un rejet des vieilles formes de militantisme, de syndicalisme un peu figé de temps en temps. Sur des choses plus évolutives, enfin sur des choses de manière différente, des manières nouvelles de le faire par rapport à avant, où il y a un côté, ou sur le côté syndicalisme, enfin sur un certain côté, où ça devient un peu figé, ça ne marche plus en fait sur les choses. Donc il y a un peu le côté sur réinventer une nouvelle manière de lutter, plus en adéquation avec le monde de maintenant, parce que tout ne marche, tout ce qui se faisait avant ne marche plus forcément.
Oui, mais quand tu dis le syndicalisme un peu vieillot, les trucs, etc. Et oui, la façon de militer, je pense qu'elle doit être vraiment revue. Marcher le 1er mai, c'est important. Moi, j'ai toujours cru que marcher un jour férié, pour les patrons, c'est trop simple. Faudrait pas marcher un jour férié. En fait, faut pas opposer les vieilles façons aux nouvelles façons. Je pense qu'il faut vraiment repenser les façons de militer. Et peut-être que marcher, c'est trop simple. Le gouvernement... se dit, là, il marche, il pète quelques vitrines, etc. Pas oublier que les syndicats, ils ont apporté des avancées et qu'en fait, les deux ne sont pas contradictoires et qu'il y a des gens qui vont se retrouver dans les black blocs, dans des nouvelles façons de manifester, et que les syndicats, pour beaucoup d'ouvriers, ok, ça peut paraître old school, mais ça marche et ça va au prix d'hommes. Donc, les deux ne sont pas antinomiques.
De toute façon, ça va tout à fait dans le sens de ce que je voulais dire. j'ai l'impression qu'on est un peu tous le boomer de quelqu'un ou le millénial de quelqu'un, voilà. Dans le sens où mon père, il me disait « Ouais, avec ton rap, je comprends rien, les jeunes de maintenant, vous savez plus vous amuser, nous, on faisait ceci, cela. » Mais sa mère, elle lui disait pareil, en fait. « Qu'est-ce que tu fais avec tes cheveux longs et tes pattes def? Je comprends rien, les jeunes de maintenant, les Beatles. » Donc, à toutes les générations, il y a une forme de... Ouais, de c'était mieux avant, ou en tout cas, pourquoi vous faites pas comme nous? Et en même temps, comme me disait Claude, je pense que chaque génération se saisit à sa manière, en fait, des luttes, par exemple, ou des questions, des problématiques, parce que ça me fait penser à une amie qui a le sentiment, par exemple, sur les luttes antiracistes, LGBT, tout ça, qui a une forme, ou peut-être même les violences, plus largement, qui a une forme de victimisation, tu vois, dans le sens où on parle tout le temps de ça. Mais en même temps, chaque génération se ressaisit, en fait, des problématiques, et donc, bien sûr, remet sur la table, quoi, les questions qu'on brasse depuis des générations et des générations. Mais là, elles le font à leur façon, en fait. C'est un mouvement.
On évoquait juste avant le fait de réamener de nouveau sur la table des questions comme le racisme, en tout cas l'antiracisme, ou même, je sais pas moi, les retraites. En fait, ma question, c'est plus qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme thème ou lutte qui pourrait être uniquement transgénérationnel, parce que en vrai, comme thème récurrent, l'écologie, c'est présent depuis même le 19e siècle. Quoi. Bon, j'exagère un peu, mais là, ne serait-ce que sur ces 40 dernières années, on devrait être plus ou moins tous d'accord sur la question. Mais pourtant, le sujet n'est soit pas assez fort, soit les méthodes de communiquer pour cette lutte sont pas... Je veux dire, on est quand même assez divisé, ne serait-ce que dans la gauche et le parti écologique, pour faire un truc impactant et fort d'une voix commune, quoi. Et je m'interroge un peu là-dessus. Pourquoi un truc aussi... Une épée de Damoclès telle que l'écologie ne traverse pas toutes les générations et met tout le monde d'accord, en fait?
Pour moi, tu vois, c'est ce qui apparaît, en fait, clairement dans le texte. Je trouve que c'est pour ça que vous avez dit elle avait que 16 ans, en fait. On aurait tendance à dire qu'elle a que 16 ans. En fait, il est hyper mature, ce texte, parce qu'il met en évidence le fait que c'est pas une question de génération. Je trouve qu'on a tendance un peu à se focaliser des fois sur la génération. Et en fait, tu as des luttes, comme tu le dis, tu vois, qui sont vraiment transgénérationnelles. Et l'idée, c'est de repolitiser, tu vois, ce... Pour moi, je vois un peu ça comme un rapport social, tu vois. C'est pas que des rapports sociaux entre sexe, genre, etc. Mais il y a aussi un rapport de classe d'âge, tu vois, on pourrait dire. Et pour moi, c'est comment repolitiser, tu vois, le lien entre des générations qui, visiblement, n'auraient rien, ne partageraient plus rien, en fait. Et du coup, je me pose un peu cette question-là sur à partir de quoi, un peu comme toi, on pourrait recréer ce lien.
Peut-être à un moment donné, en prenant les gens pour des vrais gens. Un truc que j'ai toujours trouvé très étrange, on traite les enfants, en règle générale, avec une idée de comment on est censé traiter un enfant de tel ou tel âge, et on lui laisse pas la place. Pareil avec les vieux. Sur les gros écarts d'âge, c'est hyper visible. Sur les, quand on est un peu plus proche générationnellement, je trouve que c'est assez aboli. Il y a presque des castes d'âge qui communiquent plus trop les unes avec les autres. Et la manière aussi dont on met les plus âgés à l'écart, est-ce que, au lieu que ça soit une richesse de la société, non, ça devient un poids. Et ça en devient réellement, parce que du coup, les gens périclitent, parce qu'ils n'ont plus d'utilité réelle à quoi que ce soit.
Moi, l'édito, il m'a fait directement penser, comme elle le dit, au fait qu'on a vraiment tendance à se croire immortel et qu'on sera toujours jeune. Ça amène à deux choses. D'une part, il y a beaucoup d'agisme dans les milieux de lutte. Selon les types de lutte et les moyens d'action, c'est pour telle catégorie d'âge. Enfin, c'est pas pour, mais voilà, les milieux des squats ou des choses comme ça pour les plus jeunes, ou de l'action directe plus musclée. Cette façon de se croire, comme tous les êtres humains, de se penser immortel et éternellement jeune, elle le dit, on se pose pas pour réfléchir à se dire mais comment ma lutte et ma façon d'agir, elle va évoluer avec ma vie qui va évoluer. Et mes modes d'action, peut-être dans 10 ans, ils m'iront plus. Et ça amène beaucoup de gens à sortir des luttes quand ils sortent de la jeunesse. C'est un peu le truc de la fac. Et voilà. Et après, la vie avance et puis c'est plus trop compatible. Et je trouve que ça m'a vraiment interpellée là-dessus, de dire, mais de se poser et de réfléchir. et dire bah non, en fait la vie elle est très courte et ça va changer très vite, et comment est-ce que c'est quoi le plan en fait pour faire évoluer mes moyens d'action, comment ça pourrait être compatible avec tel ou tel aspect de ma vie.
On a un peu élagué le sujet de manière générale, mais si vous voulez on peut rentrer plus dans le vif de certains questionnements qu'il y a au sein du journal. En plus Philémon n'est pas là, donc vous pouvez choisir l'article. Est-ce que ça vous va de parler d'euthanasie et de fin de vie ? Il est un peu long, ouais. Est-ce que quelqu'un veut lire ?
Euthanasie, le début de la fin de vie en France. S'il semble se dégager une majorité dans la population favorable au projet de loi sur la fin de vie, 92% selon un sondage IFOP pour l'ADMD de mai 2024, il existe également des oppositions, notamment de collectifs pour les droits des handicapés ainsi que de médecins. Nous avons interrogé Charles-Henri Canova, cancérologue, ainsi que Elisa Rojas, avocate et militante handi. Validiste et eugéniste, dire encadré. C'est ainsi qu'Elisa Rojas, avocate et militante pour les droits des personnes handicapées, a qualifié le projet de loi sur la fin de vie. Dans une tribune parue dans Le Monde le 13 février, elle s'est prononcée contre. Pourquoi ? Il est clair que le texte de loi sur la fin de vie relève d'une logique validiste et eugéniste, dans le sens où tous les raisonnements faits pour le justifier s'appuient sur le postulat que toutes les vies ne se valent pas, qu'il est logique que les personnes malades et ou handicapées veuillent mourir, et qu'il n'y a pas, comme on le ferait pour les personnes valides, à interroger leur environnement, à questionner les véritables causes de leur désir de mort, ni à les dissuader de recourir au suicide, mais qu'il faut, au contraire, leur faciliter le passage à l'acte. Sans le dire expressément, il y a aussi l'idée sous-jacente qu'au fond, les personnes malades et ou handicapées étant des poids pour la société, leur mort ne serait pas un drame, mais une libération pour elles-mêmes et surtout l'ensemble de la collectivité. Pourtant, les partisans du projet de loi insistent sur le dernier mot laissé aux patients pour ne pas craindre d'incitation à la mort pour des patients en soins palliatifs. Cette présentation est très hypocrite. Il y a une multitude de pressions qui pourront s'exercer sur les patients en cause, notamment sociales, familiales et médicales. Comme je l'ai dit, nous vivons dans une société qui hiérarchise les vies et considère les personnes malades comme des fardeaux pour leurs proches et l'ensemble de la collectivité. Il est évident que le texte lui-même constituera une pression supplémentaire et une incitation au suicide pour les personnes malades et handicapées, notamment les plus fragilisées. Détaille Elisa Rojas. Pour l'association au droit de mourir dans la dignité, il faut à la fois mieux prendre en charge les soins palliatifs et également pouvoir choisir librement sa mort. Le fait de lier le suicide assisté, euthanasie et soins palliatifs en affirmant qu'ils peuvent coexister et que l'un est le prolongement de l'autre est une manipulation grossière de la part de cette association. Provoquer la mort n'est pas un soin puisque le soin vise au contraire à améliorer, maintenir et protéger la santé physique ou mentale. Mélanger les deux sujets dans le texte de loi visait en outre à empêcher ceux qui ont des doutes sur l'opportunité de légaliser l'aide active à mourir, de voter sans risquer de mettre en péril le financement des soins palliatifs. Il s'agissait ni plus ni moins d'un chantage. En réalité, ce qui est constaté dans les pays qui ont légalisé ce type de dispositif, comme le Canada, c'est que parallèlement à cette légalisation, la qualité des soins palliatifs s'est dégradée. Or, la qualité des soins palliatifs et leur financement à hauteur des besoins, comme tout ce qui contribue à soulager la douleur, devrait être la priorité pour les malades en fin de vie. D'ailleurs, lorsque ces derniers sont bien pris en charge, ils ne demandent plus à mourir, comme l'a confirmé la mission d'évaluation des lois Claeys-Leonetti de 2023. Elisa Rojas estime également que le but de la Convention citoyenne, créée pour l'élaboration du projet de loi, était clairement de donner un semblant de légitimité à un texte qui en réalité ne répond à aucune urgence, ni même à aucun besoin. Or, les conclusions de cette convention, selon lesquelles 75,16% des participants se sont déclarés favorables à une évolution du droit vers une aide active à mourir, sont les plus contestables. Elles relèvent qu'il a été demandé à des personnes majoritairement valides de se prononcer en se projetant de façon fictive dans des réalités, la maladie, la dépendance, le handicap, la souffrance physique et morale, la proximité de la mort, qu'elles ne vivent pas mais craignent sans les connaître. tandis que la voix de celles et ceux qui font déjà l'expérience concrète de ces réalités et dont la vie sera possiblement écourtée par la réforme a été opportunément écartée ou minorée, tant dans le choix des participants que lors des tables rondes organisées. Le droit de choisir sa mort ne représente-t-il pas un progrès ? Je m'étonne que le droit de choisir sa mort ne soit revendiqué que pour les personnes malades et handicapées, mais jamais pour justifier le suicide des personnes valides et bien portantes. Je m'étonne également que les défenseurs du texte, qui pour la plupart ne s'offusquent jamais du fait que la plupart des personnes malades et handicapées vivent actuellement privées du droit de choisir leurs conditions de vie, par exemple l'endroit où ils vivent, avec qui, leurs activités, leurs repas, soient soudainement préoccupés par le fait de donner d'urgence à ces mêmes personnes le droit de choisir leur mort. Le suicide est déjà une liberté pour tout un chacun et il existe par ailleurs. Les lois Claeys-Leonetti 2005 et 2016, pour répondre de façon raisonnable aux besoins des malades en fin de vie, avec le refus de l'acharnement thérapeutique, le droit à la sédation profonde jusqu'au décès et la possibilité de directives anticipées. L'avocate s'interroge sur la notion de progrès. Pour ce qui est de savoir si légaliser le suicide assisté et l'euthanasie est un progrès, tout dépend de la définition que vous avez du progrès. Pour ma part, je ne pense pas que le progrès se mesure uniquement au regard des libertés individuelles et de leurs avancées. Il faut aussi tenir compte d'autres paramètres, comme celui de l'égalité et de la solidarité. En ce sens, en termes d'égalité et de solidarité, ce projet de loi ne constitue pas un progrès. Au contraire, il ne constitue rien d'autre que le parachèvement d'une politique capitaliste et néolibérale mortifère qui détruit d'abord les droits des personnes malades et handicapées, détériore leurs conditions de vie et d'accès aux aides et aux soins et les abandonne à leur sort pour ensuite leur proposer, presque cyniquement, la mort comme solution à leurs difficultés. Même avec des garanties et des critères restrictifs, Elisa Rojas se prononce contre le projet de loi. Aucune garantie n'est de nature à contenir les dérives et à faire échec aux risques considérables qu'ils représentent pour les personnes malades et handicapées. L'extension du dispositif au-delà des personnes malades au pronostic vital engagé à court terme est inévitable. Il est même consubstantiel au texte dans la mesure où il s'agit de créer un nouveau droit dont l'un des critères d'attribution est la souffrance. Il y aura toujours des gens en grande souffrance pour dénoncer le fait qu'ils sont injustement exclus de ce droit d'accès au suicide médicalisé et pour revendiquer son application à leur situation. C'est ce qu'il s'est passé au Canada et la raison pour laquelle rien n'a pu empêcher l'élargissement rapide de la liste des bénéficiaires. Observe-t-on dans les pays où l'euthanasie est légalisée une hausse des morts de personnes en situation de handicap ? Le simple fait que des personnes handicapées puissent demander à mourir via ce dispositif, non pas par souhait de mettre fin à leur jour, mais à défaut de pouvoir vivre et se soigner dans de bonnes conditions, est totalement inacceptable. On sait que de telles demandes ont été faites et ont été validées dans des pays qui ont légalisé le suicide assisté et l'euthanasie. Qu'elles soient majoritaires ou pas, n'est même pas la question. Ceux qui défendent le projet de loi semble considérer que les morts qui ont été provoquées dans ces circonstances sont un moindre mal, qu'il ne s'agit que de simples dommages collatéraux. Ce n'est pas mon cas. La vie des personnes malades et handicapées compte et il me semble tragique qu'une société soit inhumaine au point de suggérer l'inverse. Charles-Henri Canova, cancérologue, se veut plus mesuré dans son approche du projet de loi. Il n'y a pas de pour ou de contre, c'est plus compliqué que cela. Que pense-t-il du projet de loi en cours ? Je pense qu'il faut le scinder en deux, comme proposé par François Bayrou, car il y a deux sujets différents. Déjà, l'accès aux soins palliatifs n'est pas garanti équitablement sur le territoire. Idéalement, la meilleure façon de mourir est à son domicile, avec ses proches, et pas dans un endroit institutionnalisé, quitté étranger. Il faudrait proposer un accompagnement à domicile avec la structure qu'il faut. Le problème, c'est qu'il n'y a plus beaucoup d'infirmières et de médecins qui se déplacent à domicile. Aujourd'hui, ce n'est pas applicable. Il faudrait déjà que chaque département puisse bénéficier de soins palliatifs et qu'ils soient accessibles. Ce sont des services qui ne sont pas rentables et on ne devrait pas y chercher la rentabilité. Il faut beaucoup de personnel soignant pour peu de patients. Que recouvre l'appellation « soins palliatifs » qui devrait faire l'objet d'un texte séparé de celui sur l'aide active à mourir en mai 2025 à l'Assemblée nationale ? On utilise beaucoup le terme de « soins de confort » plus générique et plus global, explique Charles-Henri Canova. On est dans l'ère de l'accompagnement du patient, de lutte contre la douleur, du soutien psychologique. Un accompagnement global du corps et de l'esprit, des soins de confort en parallèle de la prise en charge médicale. Par exemple, en plus de la chimiothérapie, un accompagnement nutritionnel, social, psychologique et physiologique des proches. Très peu d'endroits sont structurés pour garantir tout cela. Pourtant, de nombreuses études ont montré que l'amélioration de la survie, lorsqu'il y a des soins pour le confort, en plus de la chimiothérapie. Pour le médecin, ce qui est effrayant pour l'aide à mourir dans les cas de personnes atteintes de cancer, c'est qu'on peut se trouver parfois dans des situations d'urgence où il s'agit simplement d'un cap aigu à passer et d'aider le patient à partir. J'ai des patients toujours en vie 3 ans après des soins palliatifs. C'est un vrai danger de simplifier des process. Quel humain en 2025 et plus tard pourra dire « ce patient-là, c'est fini, il faut abréger ses souffrances ». Le docteur Canova porte aussi l'attention sur un facteur négligé, selon lui, dans le cas d'une fin de vie. La dépression est très fréquente chez les personnes atteintes d'un cancer, ce qui aggrave le pronostic. Lorsqu'on est dépressif, on peut manifester plus vivement l'envie de mourir. Le niveau de la psychiatrie en France se dégrade car ce n'est pas très rentable. Il faudra une évaluation psychiatrique pour les patients souhaitant mourir, car certains sont brisés et leur situation peut s'améliorer avec une psychothérapie et des antidépresseurs. On néglige trop cet aspect. Selon lui, il faut prioriser le soin et les structures d'apport. Avant d'aider les patients à mourir, il faut pouvoir diagnostiquer et dépister précocement, traiter des dépressions, encadrer psychologiquement les patients. Il faut instaurer des parcours de soins pour toutes les pathologies, avec des intervenants identifiés et disponibles. Faire cette loi sans les ressources humaines nécessaires n'a pas de sens. Il réfute également l'argument de l'alignement sur les voisins européens pratiquant déjà l'euthanasie. Le fait que l'euthanasie existe chez nos voisins ne veut pas dire qu'il faut s'aligner. On se demande comment aider les gens dans ces situations et aucun médecin n'a la réponse idéale. Il est sûr que cela peut rassurer lorsqu'on connaît son futur très péjoratif de savoir qu'on peut ne pas aller jusqu'à ce point de souffrance. Il faut faire attention à ce que ça ne soit pas élargi à des pathologies qui n'engagent pas le pronostic vital, comme des dépressions résistantes par exemple. Les partisans du projet de loi sont pour que 2 critères importants préviennent de ces dérives. Le consentement libre et éclairé du patient, ainsi que l'établissement d'un pronostic vital engagé à court ou moyen terme. Pour moi, moyen terme ne veut pas dire grand-chose, il faut être précis. Moyen terme peut être long, est-ce 3 ou 4 ans avant la date du décès ? Le consentement libre et éclairé existe-t-il chez les patients dépressifs, pas bien entourés ? On veut écrire un texte générique pour des milliers de situations différentes. C'est très difficile d'en évaluer la pertinence et il faut des moyens humains et financiers avant les textes. Est-ce que parce qu'on manque de soins palliatifs, on va aider les gens à mourir plus facilement ? Pour conclure, Charles-Henri Canova réitère son souhait de voir des soins palliatifs en ligne de mire avant le reste. Le plus grand progrès sera l'accompagnement. S'il y avait des soins palliatifs partout et accessibles, je ne sais pas si on se poserait la question de l'aide à mourir.
Moi, ça m'évoque Futurama. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette série où ils ont une cabine à suicide. Et je crois que c'est dans le premier épisode où Fry prend ça pour une cabine téléphonique et il a failli crever. Pour moi, insister autant sur ce genre de loi montre un véritable aveu d'échec par rapport à notre système de santé. On diabolise avec beaucoup de force les soins palliatifs, alors que c'est un petit peu genre dans l'essence du serment d'Hippocrate, tu vois, de garder les gens en vie. En plus, mais le truc, c'est qu'ils le tournent comme si c'était une tentative de torturer des gens qui étaient sur leur lit de mort. Et je pense que le terme palliatif ne me va pas. Moi, je pense que c'est plus accompagnement du patient qui est plus juste sur tous ces aspects. Et que, comme il était dit à la fin, on essaie d'écrire un texte générique pour des milliers de situations différentes. Alors, c'est un peu le concept de loi en général, je suis d'accord. Mais je trouve que prendre un petit peu les gens comme du bétail, une sorte de poids mort sur la sécurité sociale et dire bon, allez, hein, c'est bien la dépression, mais faut. Je trouve ça triste parce qu'on retrouve à chaque fois les mêmes questions de eh ben, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter des solutions aussi extrêmes. Et c'est de nouveau de mettre plus de moyens et plus d'effectifs en termes d'infirmiers, de bras. Enfin bref, voilà, je vais rester sur l'idée d'aveu d'échec et plus d'argent pour la santé.
Je rebondis sur ce que tu disais au tout début. C'est un sujet un peu lourd, la mort, et c'est peut-être... je vais prendre un peu l'autre perspective. Moi, ce que je vois ici un peu aussi, derrière les propos que je trouvais originaux, parce que je n'avais pas... connaissance des critiques qui pouvaient être faites à tout ce qui est euthanasie, fin de vie, suicide assisté, etc. Il y a aussi un risque à favoriser finalement la vie à tout prix, comme si en fait il y a une forme de fétichisation de la vie. Et pour rebondir à ce que tu disais, la mort c'est un sujet lourd, bah, pas forcément. En fait, faut pas forcément voir la mort comme quelque chose de problématique. Ça dépend du point de vue, ça dépend des cultures sans doute, ça dépend de la génération. On est dans une génération ici qui a été beaucoup moins exposé à la mort environnante, donc on a aussi une tendance aussi à spectaculariser ce moment-là, à vouloir le repousser à tout prix, et je me dis pourquoi pas, pourquoi ne pas considérer, il y a des sociétés extra-capitalistes qui ont instauré le suicide comme étant une forme normale de choix quelque part, par exemple chez les Inuits du Groenland traditionnellement, quand une personne se sentait trop âgée, bah, elle se laissait tomber du traîneau, quoi. Enfin, c'est juste pour dire qu'enfin, il ne faut pas tomber aussi peut-être dans l'autre inverse qui consiste à fétichiser la vie à tout prix, avec ce que ça peut aussi avoir comme écho avec des personnes qui vont être contre l'IVG aussi, il me semble. Et, voilà.
Bah, parce que tu parlais de l'IVG, en fait, je voulais vraiment faire un lien entre l'IVG et le droit à mourir. En fait, il y a une époque où... l'IVG n'était pas légal en France et c'était une énorme hypocrisie parce que ceux qui avaient les moyens pouvaient aller faire une IVG en Suisse, en Espagne, en Belgique. Et en fait, aujourd'hui, la France tergiverse, se noie dans des textes de loi, propose des avancées qui peuvent enthousiasmer certaines personnes qui se disent de gauche, etc. Mais c'est des avancées minimes où les gens qui ont les moyens, ils iront. En Suisse, en Belgique, mais en fait, ça reste toujours des solutions de riches pour les riches, comme au moment où l'IVG était interdite en France. C'est que tant que tu as les moyens, tu peux aller crever ailleurs, quelles que soient les lois en France. Et pendant longtemps, l'IVG était interdite en France, et les bourgeoises, et tant mieux pour elles, elles pouvaient aller avorter en Suisse, en Espagne et en Belgique. Et on est toujours sur la même problématique, sauf qu'on n'est plus sur l'IVG. On est sur le droit à mourir dignement. Et même pour les riches, j'ai envie de dire, selon les pathologies, elles te prennent tellement de cours que si tu as le pognon, tu n'as pas le temps de faire. Pour le coup, j'ai connu des gens qui avaient les moyens, qui savaient qu'ils allaient mourir, qui voulaient aller mourir à l'étranger. En fait, leur pathologie ne leur laissait pas le temps. Donc même quand on est privilégié, c'est la misère.
Donc moi, pour rebondir sur le projet sur la fin de vie, donc moi, dans mon métier, je travaille avec beaucoup de majeurs sans enfants à charge. Donc sur le papier, beaucoup de personnes âgées avec des enfants très, très adultes. J'ai beaucoup de personnes que, sans même l'aspect à mourir, en fait, l'aspect même de soit que ce soit de maintien à domicile ou de placement en EHPAD est déjà un privilège, en fait, et qui est compliqué à vivre au quotidien. C'est pas l'euthanasie le problème aujourd'hui, c'est le droit à la fin de vie, une fin de vie décente. Parce que, à savoir aujourd'hui, même si tu veux avoir, si tu veux aller en EHPAD par exemple, et bah, tu vas avoir l'aide sociale. Donc l'aide sociale, si tu n'as pas de revenus, si tu n'as pas de patrimoine immobilier, on va rien te prendre. Et c'est un côté quand même cool en France, on va rien te prendre à ce niveau-là. Mais si tu es un petit propriétaire, si tu as acheté 1, 2, 3 pièces pour tes enfants et que et bah cet aspect-là, on va te le prendre au décès parce que tu vas vouloir te payer l'EHPAD, en fait. Donc aujourd'hui, en France, soit tu es un ultra-riche et tu vas te payer l'EHPAD, soit, bon, si tu es prolo, il y a cet aspect-là qui est quand même cool, hein, où s'il n'y a rien à prendre, on ne va rien te prendre. Mais si tu es entre deux, tu as acheté un petit appart, et bah, en fait, c'est foutu parce que tu vas... t'auras ce patrimoine-là. Aujourd'hui, on te prend un patrimoine s'il est au-dessus de 100 000 balles. Il y a 2 ans, c'était 40 000 balles. Donc, t'as acheté une cave, t'es dans la merde déjà. Tu pourrais même pas la léguer, tu vois, celle-là. Enfin, il faudrait vraiment une fin de vie concrète, décente, en fait. Et moi, c'est ce que je vois au quotidien, des personnes qui renoncent à leurs droits parce que ils ont envie de laisser un petit patrimoine, tu vois, ne serait-ce qu'une cave, quoi, à leurs gosses, à leurs petits-enfants, peu importe. En fait, pour moi, l'aide à mourir, là, les personnes qui renoncent aujourd'hui à leurs droits dans mon métier, leur droit à l'EHPAD, leur droit à l'aide, en tout cas, à payer un EHPAD ou une maison de retraite, c'est quelque chose qui va se reproduire sur la fin de vie, tu vois. Et dans le gouvernement actuel, moi, je suis pas d'accord, parce que ça serait terrible et ce seraient les mêmes personnes qui renonceraient à ça, c'est-à-dire les personnes prolétaires. Donc c'est pour ça, dans cet aspect-là, je suis pas d'accord. Dans là, ce qui se passe aujourd'hui, bah non, ça me paraît pas cohérent. Dans l'idée, c'est super. Mais dans le contexte, c'est pas cohérent.
Je serai extrêmement bref. Forcément, j'ai toujours été pour l'euthanasie. Je partage l'intégralité des arguments d'Elisa Rojas, mais pour le coup, je suis quand même pour cette loi parce que je pense que c'est important de pouvoir mourir et qu'il y a quand même... Ça apparaît pas formulé comme ça, mais plus ou moins, il y a vraiment cette question de je suis pour l'euthanasie dans une société anarchiste, je suis méfiant, très méfiant dans une société qui est... En fait, ouais, dans une société capitaliste, l'euthanasie, ce sera forcément un eugénisme des pauvres, en fait, parce que c'est les prolos qui vont vouloir crever, parce que effectivement, les riches, ils peuvent accéder à des soins de ouf, ils peuvent vivre dans une... ça va forcément être des prolos handicapés qui vont vouloir mettre fin à leur jour pour soulager leur famille. Ça va forcément être une usine, enfin, dans le cadre du macronisme, une loi euthanasie, et je suis totalement d'accord avec Sabra, ça va forcément être une usine à ce que des pauvres vieux décident de dire bah, c'est plus simple si je pars, parce que plutôt que de traîner 4 années où tu pourras avoir quand même une belle vie, si jamais tu es dans un cadre autogestionnaire, avec une belle famille qui te kiffe, avec tes petits-enfants, pas de problème d'argent, du confort, de la bonne soupe, tu es content de t'es passé ces 4 ans sans crever, quoi. Mais là, ça va être des gens qui vont dire bah, ces 4 ans, je vais pas les faire parce que je vais soulager ma famille. Et donc, oui, la question se pose. Est-ce qu'une fin de vie mesurée, équilibrée et consciente existe dans le capitalisme? Je pense pas. Parce que le capitalisme nous pousse à vouloir crever, nous les pauvres. Les riches, ils veulent vivre le plus longtemps possible. Donc pour moi, effectivement, il y a un problème de lutte des classes, de classe qui fait que... Enfin, un problème classiste qui fait que cette loi, pour le coup, après avoir réfléchi, même si je suis pour l'euthanasie, je suis contre cette loi.
Au début de cette année ou à la fin de l'année dernière, il y a une femme qui a demandé à être euthanasiée, quoi. Tout le monde s'est un peu félicité de cette possibilité-là qui lui était offerte. Et en fait, il y a des assos qui ont un peu creusé derrière. Et Instagram, les dévalideuses, je présente le compte, les dévalideuses. En fait, quand on creusait derrière, ben, cette femme, elle avait beaucoup d'assistance à domicile. Et ses aides ont soit plus été renouvelées, soit supprimées, je ne sais plus. Et donc, elle se retrouvait sans aucune assistance, en fait. Et c'est pour cette raison-là, en fait, qu'elle a demandé à être euthanasie, quoi. C'est pas parce qu'elle était au bout du rôle et qu'elle n'avait plus de solution. Il y a des solutions. L'État ne remplit pas son travail. Enfin, voilà, c'est tout à fait en lien avec ce que je trouve que ça illustrait très bien ce qui était dit dans l'article. Et j'ai pensé à un autre aspect de la question de classe, c'est que avant d'envisager de mourir, ben il faut être à vivre, quoi. Et les riches aussi auront les moyens de se payer des aides à domicile, des choses comme ça, pour retarder le moment où ils auront eux la thune pour aller mourir dignement. Donc il y a aussi un aspect comme ça qui est pas contradictoire, hein, mais qui est un autre endroit, je trouve, où les riches sont aussi avantagés, même si bon, ils sont... Si un riche en est au point de demander l'euthanasie, c'est que bon, on peut avoir un peu de compassion quand même. Mais mais il reste avantagé, quoi, privilégié, on est d'accord.
Never.
J'avais au départ plutôt un bon a priori sur le fait d'autoriser l'accès à l'euthanasie des personnes qu'il désire. Après cet article, ça m'a fait revenir un peu en arrière sur ma position. Et ce qui m'a fait revenir en arrière aussi, c'est que la loi précédente, Claeys-Leonetti, sur la sédation profonde et prolongée, n'est pas appliquée. Il y a beaucoup d'opposants à cette loi qui disent qu'on va déjà se donner les moyens de faire des soins palliatifs de qualité et d'appliquer la loi qu'on a déjà pour voir si on a besoin d'aller plus loin. Si je suis toujours favorable à l'accès à l'euthanasie pour les personnes qui le désirent, je me méfie énormément de cette loi.
Tout à l'heure, ça parlait en termes de classe, mais en fait, je pense que cette loi, elle n'est pas tant en termes de classe. Tu parlais, donc les pauvres vont vouloir crever pour ne pas être une charge sur leur famille, c'était en gros ce que tu disais. Mais en fait, quand on regarde la loi, il y a les gens qui ont le patrimoine culturel et de classe, et pas forcément économique, de comprendre la loi, de pouvoir en bénéficier, des malades qui auront le temps d'en bénéficier, et c'est pas tout le monde. Et ensuite, il y a aussi une réalité de mourir en EHPAD quand on parle des riches. Ben, la chambre est quand même chère. Hein. Ben, le service qui est offert, franchement, les riches, ils ont peut-être l'illusion de mourir mieux. Si t'es très, très riche, peut-être. Si t'es moyennement riche, moi, pour ce que j'ai vu, je suis pas sûre. Hein. En fait, c'est pas la question d'être maltraitant individuellement. Là, on est sur quelque chose de sociétal et de qu'est-ce qu'on investit dans les publics vulnérables, qu'ils soient vieux, handicapés ou mineurs. Parce que la plupart des violences, elles se font sur les vieux, les handicapés et les enfants. Donc que des personnes vulnérables et qui ne génèrent pas d'argent au niveau de l'État et de la société. Les vieux, les handicapés, les enfants. Où il y a des abus, et ça me semble très important de le rappeler, c'est quand même les populations qui souffrent énormément. Qui veut le micro ?
Tu peux t'envoyer là n'importe quelle manière, mais c'est juste le fait de pouvoir le faire d'une manière médicamenteuse qui reste digne pour tout le monde, parce que tu peux te pendre, tu peux te prendre des médicaments et tout ça, ça peut être hyper dégueulasse, mais c'est juste que le fait d'autoriser cette l'euthanasie, c'est juste le faire d'une manière digne, tranquille, par rapport à la famille, par rapport à tout le monde. Voilà, moi, c'est tout ce que je veux dire à ce sujet-là.
On parle voilà, de mourir dans la dignité, mais j'ai l'impression que les institutions ne nous poussent pas à vivre dans la dignité. Si on appliquait cette loi, au moins que les services de soins palliatifs ne soient pas dégradés comme au Canada, en fait.
Finir l'idée où aujourd'hui, en fait, quand tu demandes une aide sociale, donc c'est-à-dire un truc pour te payer l'EHPAD, en fait, dans le département, il n'y a que les enfants qui payent l'obligation alimentaire, tu vois. Donc la personne qui est hébergée, qui est placée à l'EHPAD, 95% de ses revenus vont revenir dans l'EHPAD et les enfants, selon leurs revenus, vont mettre de l'argent ou pas. Pour avoir le droit à cette aide, c'est-à-dire de te payer un EHPAD, on te demande si tu as usé tous les autres moyens possibles et inimaginables pour payer cet aspect-là, en fait. Et j'ai peur que, en fait, si cette loi passe, à un moment donné, on te dise, est-ce que vous avez essayé cette chose-là ? Est-ce que vous avez pensé à l'euthanasie avant d'aller dans un EHPAD qui va vous mettre dedans financièrement et pour probablement votre descendance ? Je pense qu'actuellement, sur un côté capitaliste, là, comme ça, vraiment, c'est pas une bonne idée, là, de suite. Dans l'idée, c'est cool, pas maintenant.
Merci. Juste, je me permets de signaler un petit placement de produit, c'est que, généralement, ces rencontres apéro-concert nous coûtent quelques dizaines d'euros, donc n'hésitez pas à mettre même juste une pièce de 50 centimes pour les frais de guerre, ça permet de financer ce qui a permis de payer le houmous et la délicieuse salade de pâtes que vous avez savourée. Et sinon, oui, bah, on peut arrêter.
C'est la pause.
C'est la pause, oui.
Non, c'est la fin.
Non, c'est la fin.
C'est la fin, oui.
Mais
non,
on
n'a
que
1h20. Non, mais on a commencé à 22h30. On va continuer ce débat de manière informelle. Vous étiez 3000 ce soir, c'était très intense. Allez, jingle. La fin de vie, c'est pas très cool. Si ça se fait dans le capitalisme, on préfère tous mourir dans l'anarchie.
Youtubercule. Vous n'y échapperez pas.
J'adore.
C'était solide. Je dirais même, c'était litso.